Oui, donc on a la joie aujourd'hui de vous voir pour cette première conférence. Et donc, en fait, M. Dupont voulait se présenter lui-même.
Vous êtes Six, vous voulez que...
Voilà, bon. Je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Dupont. J'ai fait la recherche en physique théorique. Après, j'ai eu un appel pour faire de l'enseignement qui m'a conduit à Stanislas, donc une SP Suisse et Étoile. Donc, il y a certains d'ici que j'ai eu directement ou indirectement. Et à Stan, j'ai développé, j'étais demandé par la pastorale, et donc, dans le cadre de ce qu'on appelle un cours de religion en SUC. Depuis un petit moment, je fais une sorte de séminaire pour la science et foi, qui est proposé STEM, ce qui m'a amené à réfléchir un peu sur la question, à lire pas mal de bouquins, et du coup, ça me donne un petit bagage pour vous en parler, parce que sinon, vous pourrez vous demander à quel titre je vais vous parler. Voilà, donc c'est donc de cette expérience, puis j'ai rencontré un certain nombre de personnes. Particulier un père d'élèves qui est fondateur du site Alitea, si vous connaissez, et qui écrit un livre qui va s'appeler Panorama des preuves de l'existence de Dieu. Et lui, c'est un peu technicien et tout un chapitre scientifique, donc j'ai un peu collaboré. Du coup, il m'a fait rencontrer d'autres personnes. Enfin, voilà. Donc voilà, donc si j'ai bien compris, vous avez un thème qui est celui de la création. Et donc, je vais vous parler de la question de la création et de la science. Savoir comment... bon, ce qu'il faut quand même dire, parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu l'époque, moi non plus d'ailleurs, il y a 100 ans, où on imaginait qu'un scientifique était nécessairement athée, ne pouvait pas être croyant, et que la science était le scientisme triomphant. Il y a une centaine d'années, et la science, de façon mécaniste en quelque sorte, elle est tout expliquée rationnellement et matériellement, et que du coup, toute considération spirituelle allait devenir totalement superflue et que la religion allait disparaître. On parlait tout à l'heure à table de Pierre Duhem, qui est un ancien de Stan. Il était dans ma classe, si je puis dire, en 1880. Il est rentré premier à l'ENS et il était très catholique, très pratiquant. Et des gens lui disaient, mais on ne peut pas être physicien et catholique, c'est strictement impossible. Et il a eu toute sa carrière brûlée, il n'a jamais eu de poste d'université à Paris parce qu'il était catholique. Donc ça, c'était le scientisme. Il y a un retournement assez extraordinaire depuis une vingtaine ou trentaine d'années, en physique en particulier, qui fait que maintenant, les physiciens ne sont plus du tout aussi sûrs d'eux du point de vue, de ce point de vue matérialiste pur et dur, et au contraire se posent des questions et deviennent un petit peu mystiques. Donc j'aimerais vous montrer comment la physique voit le monde à l'heure actuelle, comment c'est très compatible avec ce que nous dit la Bible et donc l'enseignement religieux sur la création, vous montrer que la physique et la science, d'une certaine façon, à ce qu'on appelle maintenant une sorte d'au-delà de la science. Vous faites de la science et puis vous passez un moment, une borne, où vous ne savez plus très bien si vous faites de la science ou de la métaphysique, un peu entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Que la complexité du monde qui nous entoure se révèle. Alors, il y a un public varié ici. Il y a des littéraires, il y a des scientifiques, il y a des matheux, il y a des biologistes. Il y a un certain nombre de scientifiques qui ne vont peut-être pas apprendre grand-chose quand je vais parler de science, mais j'espère que les littéraires, je vais essayer d'être simple, suivront le propos. Je ne regarde pas les autres. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que la science pouvait paraître assez simple à une certaine époque, et depuis un siècle, on se rend compte qu'on progresse, mais que plus on progresse, plus le monde apparaît comme complexe, plus la complexité augmente. Il y a un penseur qui s'appelle Edgar Morin, je ne sais pas si vous connaissez, qui a publié un petit bouquin, il y a 96 ans, qui s'appelle Connaissance et mystère. Savoir, connaissance et mystère. C'est-à-dire que plus on avance dans la mystère, c'est celui-ci. Bernard Morin, c'est quelqu'un qui était athée, marxiste, il a un peu viré ses cuties, et là, il dit, bah, il doit y avoir quand même quelque chose derrière tout ça, c'est pas possible autrement. Une telle complexité. Donc, je vais essayer de dresser un peu un panorama, donc je crois que j'ai grosso modo une heure, voilà, après ça, au bout d'une heure, je ne vais plus en parler. Donc ceci, voilà. La grande question qui se pose, la question ontologique, c'est celle de la création. Qu'est-ce que l'être, finalement? Pour nous, croyants, l'être, c'est Dieu. La réponse n'est pas uniforme. Pour les athées, matérialistes, l'être, c'est l'univers. Je vous signale au passage un bouquin de... Alors, qu'est-ce que l'être? Est-ce que la science peut apporter une réponse et dire, ben, finalement, l'univers ne peut pas être l'être? L'être, c'est-à-dire un être incréé, qui n'a pas de cause et qui nécessairement est éternel. C'est Parménide, d'un philosophe grec, qui avait décrit les attributs de l'être, et en particulier celui d'être sans génération, donc sans cause, sans début et sans fin, donc d'être éternel. Au passage, alors je vais vous parler de ce que dit la science, il semblerait que la philosophie puisse aller un petit peu plus loin. J'ai rencontré, dans les activités dont je vais vous parler, un philosophe, ancien élève de cette école la vôtre, qui a écrit un livre qui s'appelle tout simplement Dieu existe. Je vous le conseille.
Ah, c'est génial. C'est
Frédéric. Hein. Frédéric, vous le connaissez. Il est extrêmement limpide. C'est génial.
Ah, j'adore, voilà. J'adore.
Moi, je l'ai lu. D'habitude, si je lis un livre de philo, moi, j'en sors, je me dis, oh, je suis content d'avoir lu, mais qu'est-ce que c'était dur. Et là, on en sort en se disant, ah, j'aimerais que ça continue, c'est tellement limpide. Et il a deux chapitres. Le premier chapitre, il montre qu'il existe nécessairement un être incréé, c'est-à-dire que dans la succession des causes, on ne peut pas remonter à l'infini. Chaque être contingent a une cause. Et c'était l'intuition de saint Thomas d'Aquin. Dans cette remontée des causes, forcément la série est finie. Et il fait une démonstration, un peu mathématique d'ailleurs, qui montre qu'il existe nécessairement un être incréé. Et son deuxième chapitre, pertinent, très pertinent, c'est de montrer que cet être incréé ne peut pas être lui-même. L'univers, c'est l'ensemble du monde matériel. Et donc, si ce n'est pas l'univers matériel, eh bien, c'est un être spirituel, et c'est Dieu. Voilà. Donc, je vous recommande ce bouquin. Je vous dis qu'il est génial, mais je ne suis pas le seul à lire. Alors, en quoi est-ce que la science intervient dans ce débat? C'est vrai que jusqu'au début du XXe siècle, on imaginait que l'univers avait toujours été là. Éternité, de moins l'infini à plus l'infini, que la matière avait toujours été là, et finalement, on avait un peu de peine à concevoir qu'il n'en était pas ainsi. Alors, les scientifiques d'ici savent qu'en 1930, il y a eu une découverte assez extraordinaire, une découverte astronomique, qui est celle de l'expansion de l'univers, faite par Hubble, en regardant les galaxies lointaines, il a vu qu'elles s'éloignent, il faut bien viser au télescope parce qu'elles sont vraiment loin, qu'elles s'éloignent toutes de nous, avec une loi de vitesse qui est très simple. La vitesse est proportionnelle à la distance qui nous en sépare. Donc c'est assez bizarre, parce que si elles avaient des vitesses dues à leur histoire, il y en a qui se rapprocheraient, d'autres qui s'éloigneraient, mais elles ne seraient pas toutes à s'éloigner de nous. Et en cogitant, il a compris, et d'autres ont compris avec lui, qu'il s'agit de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas les galaxies qui, dans l'univers, nous fuient, c'est l'univers lui-même qui s'étend. Comme une nappe cirée, donc c'est l'exemple qu'on prend. Vous prenez une toile cirée, vous avez des motifs dessus, vous tirez dessus, et vous voyez les motifs s'écarter les uns des autres. Pour autant, ils ne migrent pas sur la nappe. Donc l'expansion de l'univers, ben, c'est cette image-là. Oh, là, on dit, bon, c'est assez étonnant, c'est un peu spéculatif. Il faut savoir que dans le même temps, ça arrive souvent comme ça en science, Einstein avait créé la relativité générale, et on avait déduit une équation cosmologique. En relativité générale, l'espace-temps est courbe, et la géométrie de l'espace-temps forme les interactions gravitationnelles, et cette géométrie de l'espace-temps évolue, vérifie une équation qu'il a trouvée. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'on trouvait une équation qui régit le substrat même du monde, qui est la géométrie de l'univers et du temps. Et bon, il trouve cette équation, donc l'équation, il faut la résoudre. Un russe la résout, Friedman, et il montre qu'il n'y a pas de solution stationnaire. C'est-à-dire que nécessairement, l'univers est en évolution. Il envoie sa solution à Einstein, qui lui répond, c'est faux, vous êtes trompé dans les calculs. Alors, Friedman est un peu vexé. Il dit non, il renvoie sa solution à Einstein, qui dit, bah, effectivement, c'est pas trompé dans les calculs, mais c'est pas possible que l'univers soit en évolution, parce que ça c'est un présupposé philosophique, l'univers est éternel, donc il est stable, il est immuable, et donc il trafique son équation, et il rajoute un terme qu'on appelle la constante cosmologique, pour forcer une solution stationnaire. Il appellera ça la plus grande erreur de sa vie. Friedman triomphe. Comme le malheureux Friedman habitait en URSS, et que le plus grand physicien de tous les temps là-bas, s'appelait Konrad Stalin, a décrété que l'univers était immuable, et il a eu des ennuis. Enfin. Ensuite, il y a un prélat belge, l'abbé Lemaître, qui avait un poste de prof de maths et de physique théorique à l'université de Louvain, qui trouve une solution, qu'on appelle l'univers de l'abbé Lemaître, qui également est en expansion, non stationnaire. Et donc ces solutions, c'est quand même assez extraordinaire que dans le même temps où on l'avait observé, 3 ans avant, on avait trouvé des solutions mathématiques qui montrent que l'univers ne peut pas rester dans son état et qu'il est nécessairement en expansion. C'est quand même un coup assez extraordinaire. Ça provoque des polémiques inouïes. Parce qu'évidemment, les athées voient très bien venir ce qui devait advenir, à savoir l'idée que l'univers a un début, et donc l'idée de la création. Du coup, ils s'insultent, les colibés fusent, certains parlent de physique de curé, parce que c'était la dévonnette. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'en 1945, un russe, mais qui s'est réfugié aux États-Unis, Gamov, publie un petit bouquin qui s'appelle « La création du monde », pas par quatre chemins, et il s'appuie sur des articles de physique qu'il a publiés, où il donne un scénario du début de l'univers. Alors il reprend les observations de Hubble, les calculs de Lemaître sur l'équation d'Einstein, il dit, ben voilà, si l'univers est en expansion, ça veut dire que, de fait, les distances entre les galaxies augmentent. Donc la densité diminue. Si maintenant je rembobine le fil, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un univers qui se contracte. Et quand il se contracte, sa densité augmente. Et est-ce que sa densité peut augmenter indéfiniment? On voit bien qu'à un moment, on arrive à un point singulier où il se contracte complètement sur lui-même. Donc on arrive à un temps T égale 2. Donc on arrive à l'idée d'un début. Bien. À partir de cette idée de début, on peut d'ailleurs estimer l'âge de l'univers. C'était même une question posée en premier livre. On inverse la constante de Hubble, et puis ça marche. Et on trouve 10 puissance 12, 11 ou 12, on n'est pas à une puissance de 10 près, années, 10 milliards d'années. C'est respectable, mais comme on vient d'un monde où on pensait que l'univers était infini, finalement c'est très jeune. 10 milliards d'années. Et donc Gamov part sur cette idée, ben voilà, on a un univers qui a un début. Et ça c'est fondamental du point de vue métaphysique. Si l'univers a un début, c'est qu'il est contingent. Il ne peut pas être maître lui-même. Donc on revient à la question philosophique dont on parlait. Si l'univers matériel n'est pas l'être, eh bien c'est que l'être, il n'est pas matériel, il est spirituel. Voilà. Donc ça c'est quand même une avancée extraordinaire de la physique, et qui a provoqué des polémiques pendant 30 ans, avec des insultes qui fusaient de façon assez violente. Alors du coup, Gamov présente le scénario qu'il entrevoit pour le début de l'univers. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que je vous parlais de la complexité de l'univers, du monde qui nous entoure, en particulier de la biologie. Or, au début, qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Donc, il y a une échelle de temps qui tend vers zéro. Souvent, les gens disent qu'il se réduit à une tête d'épingle. En fait, c'est qu'il y a une échelle de temps qui tend vers zéro. Il peut rester infini de manière en moins. Une échelle de distance, pardon, qui tend vers zéro. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Vous savez, c'est le meilleur. Les gens ne savent pas. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans le premier verset de la Genèse pour faire des concordances, mais quand même, on ne veut pas s'en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a au début de l'univers ?
La lumière.
Mais qu'est-ce qu'il y a au début de l'univers ? La lumière. Donc, c'est la seule entité qui peut exister aussi, avec l'énergie conséquente qui existe dans cet état extrêmement concentré, c'est une température de l'ordre de 10 puissance 26 ou 28 Kelvin. Aucune particule ne peut exister à ce stade, il n'y a que des photons. Alors quand on dit la lumière, c'est de rayonnement. Bien. C'est assez étonnant parce que finalement, il n'y a rien de compliqué, quoi, les photons. C'est tout simple. Et puis, il y a l'expansion qui se fait, donc la température qui diminue, et Gamow introduit tout un scénario qui fait que peu à peu, les particules apparaissent, les quarks, les électrons, puis les quarks se combinent entre eux pour former les protons et les neutrons, puis ceux-ci se combinent entre eux pour former les noyaux des atomes, et peu à peu, ces éléments se forment, et puis après, ces éléments s'agrègent, et puis ça fait les galaxies, ça fait les planètes, les étoiles, etc. Il décrit tout le scénario. Bon. Fureur d'un certain nombre de personnes, dont un Anglais qui s'appelle Fred Hulst, qui est astronome. Et tout ça, c'est complètement faux. On voit très bien ce que veut nous vendre M. Gamow. C'est l'idée de la création de l'univers par Dieu. Et c'est pas de la physique, c'est de la métaphysique. Le titulaire de la chaire d'astronomie et d'astrophysique à Paris, au Collège de France, dit l'univers a nécessairement et nécessairement sans commencement, sinon c'est de la métaphysique. Là, vous pouvez rétorquer que son option c'est aussi de la métaphysique, c'est de considérer que c'est l'univers qui est l'être. Bien, ça c'est en 1962 que cette phrase est prononcée. Ça pour dire qu'il y avait une espèce de d'opposition frontale. Et donc, à la BBC, Fred Hulst s'en prend à Gamow toutes les semaines. C'est une émission anti-Gamow, enfin, pendant un an. Gamow répond, Gamow aux États-Unis, etc. Et puis, donc, il y a deux. On n'a pas vraiment de preuve de ce qu'avance Gamow. C'est séduisant comme théorie, ça s'appuie sur la découverte de Hubble, mais après, tout son scénario, on ne sait pas trop si c'est juste. Et en fait, en 1965, donc c'est pas si vieux que ça, pour vous, c'était très vieux, pour moi, c'est pas si vieux que ça. Il y a une preuve expérimentale qui est donnée de façon fortuite par deux ingénieurs de Bell Company. Je sais pas si vous connaissez Bell Company, compagnie des téléphones. Si vous voulez avoir le prix Nobel de physique, c'est presque plus performant d'entrer à Bell Company que l'université de Dorsey ou d'ailleurs. Ils ont actuellement trois prix Nobel de physique, une médaille Fields. Ils ont des laboratoires de recherche où on dit aux gens, bah, faites ce que vous voulez. Et donc, ils ont deux ingénieurs. Ils travaillaient sur une énorme antenne, je crois, pour les satellites militaires américains, qu'ils essayaient de régler. Et puis, donc, un appareil très coûteux, et il y avait un parasite. Un gros parasite, ça marche pas. Ils commencent à regarder, ils s'aperçoivent qu'il y a un nid d'oiseau à l'intérieur, à tirer le nid, il y a toujours des parasites. Et puis, ils essaient de tout régler, ils changent leur électronique. Puis il y en a un qui dit, il n'y a qu'à la tourner, puis on va voir, c'est toujours le même parasite. Puis c'est toujours le même parasite. C'est bien ennuyeux. Et comme ils avaient la culture en physique, il y en a un qui dit, on va faire le spectre du parasite. La répartition des fréquences et des énergies correspondantes. Alors ils font ça. Et comme ils ont fait de la physique, ils disent, oh, ouais, c'est incroyable. C'est le spectre du corps noir, le rayonnement de Planck, c'est un rayonnement à l'équilibre thermique. Quand vous avez un rayonnement, comme il y avait au début de l'univers, qui est en fait composé d'énormément de photons qui sont en interaction, ça se thermalise et ça, c'est un rayonnement très particulier, dit du corps noir. Le corps noir, c'est ce que vous avez si vous ouvrez votre four, vous mettez à 300 degrés, vous entrez dedans et à l'intérieur, vous avez un rayonnement, bon, c'est pas dedans, un rayonnement du corps noir. Et on peut, cette courbe, elle est très caractéristique, il a fait apparaître un maximum, et quand on regarde où se trouve ce maximum, ça donne la température d'équilibre de ce rayonnement. Alors il calcule la température d'équilibre et il trouve 3 Kelvin. 3 Kelvin, c'est froid. Il dit, mais d'où vient ce rayonnement ? Alors là, il est bien en appui à un physicien américain, il Dickel qui dit, mais ça, ce rayonnement, c'est un rayonnement fossile qui s'est formé au tout début de la création du monde, où les photons étaient en interaction, c'était très concentré. Et après, après une certaine durée, l'univers a été en expansion, ce qui fait que le gaz de photons s'est dilué. Du coup, il est plus thermalisé. Et donc, ça a figé ce rayonnement sous une forme, donc rayonnement de Planck, qui date de, pas du tout début, mais enfin vraiment du début de l'univers, des premiers temps de l'univers. Et si on prend en compte l'expansion qu'a connue ensuite l'univers, on fait un petit calcul et on prévoit qu'il sera à 3 Kelvin. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc ils ont trouvé quelque chose d'assez incroyable, un rayonnement qui vient du fond des âges, qui vient du début du monde, qui est tout autour de nous, mais partout autour de nous. Et ça, c'est une découverte invraisemblable. Ça s'appelle le rayonnement cosmologique. Et donc, cette découverte a mis fin à toute polémique. Tout le monde a dit, bah, c'est Gamow qui est arrivé. C'est Gamow qui a raison, et donc l'univers a un début. L'univers a connu, c'est pas comme s'il y avait une création, et il a évolué ensuite selon un schéma qui doit être assez proche de ce qu'a dit Gamow. Et donc la Fred Hoyle, ça a dit, bah, il paraît, mais je n'ai pas retrouvé cette source, que Fred Hoyle s'est converti. C'est lui qui a été militant et il s'est converti. Il y a beaucoup de gens qui se convertissent en faisant de la physique. Bien, la physique, les sciences. Bien. Donc ça, c'est quand même un très grand enjeu. Pour finir sur cette histoire de rayonnement de fond cosmologique, on a continué à l'étudier. Et en 2008, je crois bien, un Américain qui s'appelle George Smoot a eu le prix Nobel de physique pour son étude très fine de rayonnement de fond cosmologique, qui montre qu'il y a des petites anisotropies qui font que des galaxies et des planètes ont pu se former. Parce que s'il était totalement isotrope, c'est-à-dire invariant dans toutes les directions, eh bien, il n'y aurait aucun point privilégié et il n'y aurait pas de point d'agrégation de la matière pour faire des planètes et ensuite des étoiles. Donc il a montré ça. Grâce aux spectres qui ont été enregistrés par la sonde américaine, les sondes américaines. Il y a une sonde européenne qui s'appelle Planck et qui fait le même travail. Ceux qui sont rentrés à l'école en 2014 en PC ont dû avoir un problème sur la sonde Planck. Bien. George Smoot reçoit le prix Nobel et là il fait une conférence Nobel et il dit ou c'est dans une conférence de presse, on lui demande qu'est-ce que vous avez trouvé, il dit bah, c'est très simple, j'ai vu le visage de Dieu. Ça c'est très américain, mais les Américains parlent des choses pareilles. Et il a un peu scotché, il dit ben voilà, donc il explique tout. J'ai étudié un rayonnement qui vient de tout début de l'univers, qui vient de sa création, et j'ai étudié ces légères anisotropies qui font que le monde est le monde qu'on a aujourd'hui, et sans lequel je n'aurais pas ce monde-là. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc j'ai vu le visage de Dieu. Et c'est lui qui dit. Alors après, il ajoute, quand on fait de la physique de ce genre, il y a un moment où le physicien franchit un pas et cède la place au théologien ou au métaphysicien. On ne sait plus très bien, il y a une espèce de flou artistique, en quelque sorte, entre la description physique pure et dure et puis des considérations plus métaphysiques. Alors évidemment, on n'apporte pas une preuve au sens mathématique, mais par induction, on a très envie quand même de dire que on voit la création du monde dans cette affaire. Donc ça, c'est un grand moment, le rayonnement de fond cosmologique. Il paraît, à la réflexion, je vais faire des ordres de grandeur, ça me paraît un peu bidon, mais je le dis quand même, que si vous prenez votre télévision et vous voulez la dérégler, sans doute ce qu'il y a eu à faire avec la télévision, vous voyez ce qu'on appelle de la neige, et que 1% de cette neige viendrait du rayonnement de fond cosmologique. Ça, c'est nouveau. Je vois le début du monde. Bien. Non, je suis mort, regarde ça en famille. Alors, il faut savoir que vous connaissez tous le terme de Big Bang. Et d'où vient-il ? C'est que Fred Hoyle, emporté par son élan dans une de ses émissions, dit « Monsieur Gamow raconte n'importe quoi, son affaire, c'est comme si au début de l'univers, il y avait eu un sac en papier gonflé, écrasé par un enfant, ça fait un grand bang, un big bang, c'est complètement absurde. » Alors ça revient aux oreilles de Gamow qui dit « Tiens, c'est rigolo, je vais appeler la théorie celle du big bang. » Et il a eu tort de faire ça parce que beaucoup de gens vous disent « Ah bah oui, c'est pas Dieu qui a créé le monde, c'est le big bang. » Après là, devient le big bang. Et parce que le terme... Souvent nous disent le monde vient d'une explosion initiale. Et quand on dit ça, ça ne traduit pas la réalité dont je vais parler ensuite. Une explosion, c'est quelque chose d'abord de non souhaité, généralement, et c'est quelque chose qui apporte plus de désordre que d'ordre. Explosion. Alors c'est tout le contraire. Et c'est genre, le même George Smoot qui ajoute le Big Bang laisse apparaître une idée cataclysmique, et c'est tout. Au contraire, on voit que tout ce qui se déroule dans l'univers semble être finement ordonné dans un but. Et donc ce terme de Big Bang n'est pas le bon terme. Donc c'est dommage qu'on l'ait. Donc, je vous dis ça pour les gens qui vous diront « Oh non, mais c'est le Big Bang ». Voilà. Et alors, que se passe-t-il au début de l'univers ? Il se passe un grand nombre de petits miracles, de grands miracles. C'est qu'en fait, pour un peu, on ne serait pas là pour en parler. Il y a une succession d'événements qui sont sur le fil du radio, qui auraient pu ne pas se produire. Alors, il y en a à l'appel, je vais vous en citer un ou deux. Il y a, au bout de quelques secondes, apparaissent les quarks. Les quarks, quand j'étais petit, quand j'ai fait un peu de recherche, j'étais un quarkiste, je travaillais sur les quarks. Trois quarks, ça forme un proton ou un neutron. Et donc ils se lient entre eux. Mais si vous fabriquez un neutron tout seul, il se désintègre. Il se désintègre en quelques centièmes de seconde. Et si les neutrons se désintègrent, vous ne pouvez pas former les éléments chimiques. Donc vous ne pouvez former que l'hydrogène. Vous serez dans un monde d'hydrogène. Enfin, nous, on ne serait pas. Il n'y aurait que l'hydrogène. Donc, il faut sauver les neutrons. Et comment est-ce qu'on sauve les neutrons? En les appariant avec des protons. Mais si l'énergie moyenne est trop forte, le système apparié va se désintégrer par choc. Donc il faut baisser l'énergie moyenne. Donc il y a une course de vitesse entre la désintégration des neutrons et l'expansion de l'univers qui fait qu'on va pouvoir les sauver par appariement avec des protons. Et cette course de vitesse est gagnée, mais tout juste. On sauve 4 neutrons sur 1 milliard. C'est comme s'il y avait un cataclysme sur la Terre qui restait 24 personnes. 4 neutrons sur 1 milliard. Et ce sont ces neutrons-là qui sont dans les éléments qui constituent la Terre, le Soleil, etc. Et dans les molécules biologiques. Ça tient à pas grand-chose. Il y a d'autres... il y a plein d'exemples. Il y a ce qu'on appelle l'asymétrie entre la matière et l'antimatière. Au début, on crée autant de matière que d'antimatière. Et puis, raisonnablement, on sait qu'il n'y a quasiment plus d'antimatière dans l'univers. Sinon, ça se verrait. Il y aurait des germes d'annihilation qui seraient derrière. Il y a en fait une petite interaction qui a été découverte en 1964 au CERN, qui a été théorisée ensuite, qui permet de montrer, quand on l'a fait jouer sur la durée de vie de l'univers, qu'effectivement, on n'a quasiment plus d'antimatière non plus. Et que si on réglait les constantes physiques un peu différemment, eh bien, ça ne serait pas produit comme ça. Alors, il y a des gens qui ont étudié ça de façon un petit peu complète. Avec les ordinateurs, ça se fait pas mal. Ils disent, ben voilà, imaginons qu'on change les constantes physiques. Vous savez que dans le monde, il y a des constantes fondamentales qui règlent la physique. La constante de gravitation, la vitesse de lumière, la constante de Planck, des choses comme ça. Si vous les perturbez, que devient le monde? Eh bien, le résultat est inouï. Alors, il est popularisé par un astronome franco-américain vietnamien qui s'appelle Trinh Xuan Chuan, qui écrit des livres de vulgarisation, un astronome réputé. La précision, il montre que la précision de réglage des constantes physiques est de 10 puissance moins 17. C'est-à-dire que c'est assez fulgurant. Donc, il prend une image, c'est la précision que doit avoir un archer pour planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré située à 10 puissance 17 années-lumière. Évidemment, pour bien viser. Et si vous n'avez pas cette précision, eh bien, ça fait flop. On n'est pas là pour en parler. Ça, c'est très étonnant. Et du coup, ça a été théorisé en principe, et ça s'appelle le principe anthropique. De anthropos, l'homme, pas l'anthropie, c'est un mot. L'idée, c'est que tout se passe comme si, dans le monde, les constantes physiques, et partant les lois de la physique, sont réglées, entre guillemets, pour qu'un jour l'homme apparaisse sur Terre. Très étonnant. Donc là, la science fait intervenir la notion de finalité, qu'on a a priori en science, et que le monde est réglé pour qu'un jour il y ait un homme pensant, conscient, libre qui apparaisse. Donc si on n'a pas ce réglage, ça marche. L'auteur de ce principe, c'est Brandon Carter, qui est un physicien australien. J'ai eu comme prof, je me suis rendu compte de ça là, il y a quelques années, quelques pas d'ici, parce qu'il y a une pyramide, c'est le point carré. Donc j'ai eu relativité générale, et c'est lui qui a introduit ce principe en 1986. Alors lui, il veut prendre une version un peu faible, je n'ai pas vraiment dit ça, mais beaucoup de gens en parlent parce qu'il y a quelque chose de saisissant. Je reviendrai à la fin, selon moi, en le complétant, si je puis dire. Si vous voulez lire un livre sur la foi, écrit par Mgr Léonard, c'est Raison de foi. Mgr Léonard, c'est l'ancien primat de Belgique, c'est une tête précise. Il a écrit un livre qui s'appelle Raison de foi, à destination des étudiants. C'est nous. Et il y a un chapitre sur la science, il parle abondamment de cette affaire du principe anthropique. Il y a quelque chose derrière d'assez étonnant, c'est-à-dire que la finalité apparaît en France. Il y a une autre chose qui est intéressante dans cet aspect de début de l'univers, c'est le temps zéro. On dit, voilà, ouais, T égale zéro, c'est quand même un peu singulier. Alors tout le monde a envie de dire, qu'est-ce qu'il y avait avant? La réponse, Saint-Augustin l'avait intuité, c'est qu'il n'y a pas d'avant. Et il n'y a pas d'avant parce que le temps, il apparaît avec la matière. La matière et l'espace-temps sont consubstantiels. Donc, s'il n'y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Donc avant, c'est un cas de repos, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas de temps. Donc la question de l'avant ne se pose pas. Néanmoins, on dit, quand même, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à t égale 0? La réponse, c'est qu'on ne peut pas y arriver. Il y a un temps limite qui s'appelle le temps de Planck, qui vaut 10 puissance moins 43 secondes. Non, c'est pas beaucoup. Mais entre 0 et 10 puissance moins 43 secondes, on n'est plus dans le monde de la physique. On est ailleurs. Alors certains, ils voient le monde de l'esprit, donc le monde des maths, c'est peut-être un peu pareil. D'autres, l'idée du tout premier verset de la Genèse, l'esprit de Dieu planait sur les eaux, c'est pré-création. Il y a des gens qui pensent que le Big Bang, ça commence à 10 puissance moins 43 secondes. Donc avant, c'est pas le Big Bang. C'est planer de l'esprit. Pourquoi? En tout cas, un physicien qui s'appelle Gerhard Hoft, prix Nobel de physique, brillant sujet, puisqu'à 22 ans, il a montré un truc assez dur, physique théorique, dit qu'on ne parle pas de physique avant le temps de Planck, c'est pas de la physique, ça n'a aucun sens. C'est autre chose. C'est autre chose parce qu'en fait, l'espace-temps fluctue à la mesure du monde quantique, et quand vous avez un espace et un temps qui fluctuent, c'est pas très facile de faire la physique pour commencer. Vous avez votre temps qui part en avant, en arrière, enfin bref. Donc c'est absolument impossible. Donc il y a une espèce de flou là aussi qui nous échappe, qui échappe aux physiciens et de toute façon semble-t-il durable. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect de la création du monde. Je voudrais juste vous dire, j'ai encore un peu de temps, vous parler assez rapidement de biologie, et ça sera assez rapide parce que j'y connais rien, mais c'est peut-être pas plus mal dans les années. Vous y connaissez bien maintenant. C'est un ancien de mes élèves qui fait de la biologie. Je vous parlais un petit peu de la question de la fin du monde, de la finalité de ce qu'on principe la terminologie, qui nous amène à l'idée que le monde a une fin. Et puis aussi une mécanique quantique rapidement, parce qu'on ne peut pas ignorer ça, et ça a des conséquences philosophiques et sans doute métaphysiques assez étonnantes. Après, on essaiera d'apporter une conclusion. La biologie, c'est très compliqué. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que la physique. Moi, je retiens deux choses en biologie. C'est la complexité. Complexité inouïe. Donc, c'est des systèmes dynamiques qu'on ne peut pas traiter comme des systèmes statiques. Et surtout, on ne peut pas traiter... Ce n'est pas réductionniste. Il faut un peu tout traiter dans l'ensemble. Et donc, c'est ça. Et puis, c'est l'idée la téléologie. C'est l'idée qu'il y a une finalité qui apparaît. Tous les biologistes n'arrivent pas à ôter de leur langage cette idée de téléologie. Et j'en veux pour preuve un petit article d'un professeur, bon c'est un petit peu ancien, alors il doit être retraité, d'un professeur de biologie à l'université de Poitiers, qui dit la chose suivante. Avons que notre langage scientifique de biologiste est toujours terriblement imprégné d'une téléologie qui ne dit pas son nom. Nous éprouvons une telle difficulté à l'en épurer, si vous dites à l'épurer, que nous n'avons plus souvent conscience de nous en servir à chaque instant. Lorsque nous faisons appel à ces notions d'utile, du plus apte, et même de fonction aussi chère aux généticiens qu'aux physiologistes. En effet, qui ne parle légitimement de caractère utile d'organes adaptés à ces fonctions. Ça, effectivement, c'est l'idée qu'un organe est là parce qu'il a une fonction et donc il va servir dans une finalité. Cependant, l'honnêteté intellectuelle interdit alors de reprocher aux idéalistes d'utiliser un langage dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser nous-mêmes lorsque nous professons le matérialisme. Et il ajoute, nous voici donc tous contraints de reconnaître, que la sélection naturelle, fille du seul hasard, aboutit à des effets que notre subjectivité nous fait tenir pour rationner. Comment se peut-il qu'il en soit ainsi ? Bonne question. Comment se peut-il qu'il en soit ainsi ? Tous les biologistes, y compris Jacques Monod, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jacques Monod, c'est un prix Nobel de médecine français, qui a fait un livre au hasard de la nécessité, ça faisait fureur à une certaine époque, s'est imprégné de phrases de genre qui projettent une forme de finalité dans tous les mécanismes biologiques. Et ça, c'est récurrent dans toute la biologie. C'est assez étonnant. Donc, c'est ce que décrit aussi Edgar Morin dans son petit bouquin. Plus ça va, plus on voit que c'est complexe. Et plus ça va, plus on a l'impression que c'est pensé, entre guillemets, pour servir et pour avoir telle ou telle fonction. Et ça, c'est très, très étonnant. En biologie, on explique beaucoup de choses par le hasard. C'est ce que je souhaiterais faire à un certain nombre de personnes, une espèce de hasard aveugle qui fait qu'on crée des réactions chimiques, c'est créer la vie, l'homme, etc. On en revient beaucoup parce que le nombre de possibilités est tellement vaste que ça fait des probabilités extrêmement faibles. On peut dire que ça s'est produit sur des millions d'années, ça reste extrêmement faible. Il y a des chercheurs israéliens en particulier, qui sont très en pointe là-dessus, qui ont fait toutes sortes de considérations. Pour montrer qu'on ne peut pas expliquer l'évolution biologique uniquement par le hasard. Ils ont pris, par exemple, en imaginant qu'une réaction chimique se fait tous les temps de Planck, 1843 ans. Et puis qu'on essaie toutes les réactions chimiques possibles pour aboutir à un être vivant, même une cellule vivante, et on arrive à des temps qui dépassent les deux facteurs considérables, l'âge et le milieu. Donc, un ordre de grandeur, ça ne marche pas. Donc il y a autre chose, c'est qu'il y a une subtilité sans doute derrière la biochimie qui fait que la vie est apparue et que la vie a évolué. Parce qu'on en est qu'au balbutiement de la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, ça n'a pas 100 ans, ça a 50 ans. Donc on a fait des tas de choses, mais on est sans doute qu'au balbutiement. Et puis il y a sans doute des effets quantiques à prendre en compte qui sont extrêmement fins. Et qui vont montrer sans doute qu'il y a telle ou telle telle ou telle réaction qui est privilégiée. On a déjà vu que dans le monde de la biologie, il y a des effets tunnels, c'est un effet quantique qui se manifeste, qui font que des réactions biochimiques se font, et sinon elles ne se feraient pas. Donc il semblerait que ce monde extra-subtil qui a été créé recèle en son sein cette capacité à faire émerger quelque chose de nouveau, qui est la vie, et pas uniquement par un hasard aveugle. Je vais en dire un petit peu plus à la fin, pour vous donner un peu mon idée, elle est un peu personnelle, comment je vois la création. Évidemment, je n'étais pas là quand Dieu a créé le monde. Auparavant, il y a la question de l'évolution de l'univers. L'univers est en expansion. Qu'est-ce qui va advenir de l'univers dans un temps futur. En 1856, un Allemand qui s'appelle Clausius sort le second principe de la thermodynamique et il s'écrit. C'est assez rigolo, c'est qu'il étudie des moteurs thermiques. Moteur thermique, c'est pas palpitant. Et ça, c'est pas de la physique, les TSI connaissent ça, c'est pas de la physique de fond. Et en étudiant ça, s'il extrapole, il arrive à l'idée qu'il y a une fonction qui s'appelle l'entropie qui augmente sans cesse. L'entropie de l'univers augmente sans cesse. Donc il écrit ça comme principe. Et il en déduit que l'univers évolue de façon irréversible, donc il ne pourra pas revenir en arrière, et qu'un jour, on va arriver dans un état de maximum d'entropie, ce qu'il appelle la mort thermique de l'univers. Donc c'est l'idée, donc, dans cette idée purement thermodynamique, il y a aussi l'idée d'un début et l'idée d'une fin. Une entropie qui part de zéro, du coup, là aussi, fureur des matérialistes. Mais ça a duré 60 ans. Hein, se rendre compte de ça. Un naturaliste allemand qui s'appelle Haeckel, qui est assez connu dans son domaine, écrit un petit article contre le second principe de la thermodynamique, qui est assez extraordinaire, en disant, c'est le postulat principe, le monde a toujours existé, le monde existera toujours, donc sur un temps infini, il n'y a pas plus de début qu'il n'y aura de fin. Donc les idées de M. Clausius sont totalement fausses, et il conclut que le second principe de la thermodynamique doit être sacrifié. Il n'est pas sacrifié, puisqu'on l'enseigne encore. Donc, et ça, c'était en 1890. Et en 1910, par là, Arrhenius, qui est un chimiste danois, écrit à peu près la même chose. Le second principe de la thermodynamique est faux, parce que ça s'oppose à l'idée d'un monde qui existe depuis toujours et qui existera éternellement. Alors, on en était là. Curieusement, après, on n'en a pas tellement reparlé, mais en fait, c'est très profond, cette histoire. Le second principe de la thermodynamique, on ne le démontre pas, on le conjecture. On n'est pas loin de le démontrer avec une équation dite de Boltzmann sur laquelle Cédric Viviani a travaillé, a fait un truc mathématique là-dessus. C'est un peu compliqué. Et puis, il y a une nouveauté, c'est que, ça date de Hawking, on s'est aperçu que les trous noirs sont des grands dévoreurs de matière et du coup des grands créateurs d'entropie. Il y a sans cesse de la matière qui rentre dans les trous noirs. Et ça a été un des découvertes de Hawking, d'associer une entropie au trou noir. Et du coup, il y a ce qu'on pensait être une mort thermique, un effet un peu dû à des gaz, des trucs un peu basiques, on se rend compte qu'en fait, c'est bien pire que ça. Il y a une augmentation fulgurante dans l'entropie de l'univers qui fait qu'il semblerait qu'il aille inexorablement vers son maximum d'entropie et donc vers sa fin. Et là aussi, on est sur un domaine où on sort complètement du matérialisme pur avec un univers qui n'a pas de début et pas de fin. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ce que vous racontez, bien sûr. Il y a ceux qui ne veulent absolument pas penser ça. Du coup, il y a des théories alternatives. Alors, je ne vous fais pas toutes les objections possibles. Les théories alternatives, c'est par exemple de dire « Ah oui, mais en fait, l'univers est en expansion, puis un jour, il va se recontracter, et puis ça va redonner naissance à un nouvel univers, et ainsi de suite. » Et ça, c'est une vieille lune métaphysique qui s'appelle la théorie de l'éternel retour. Donc c'est sauver en quelque sorte la permanence de l'univers en le faisant osciller en quelque sorte sur des cycles, décrire des cycles. Engels explique ça. Il a un texte que j'ai là où il dit en substance de deux choses l'une. Soit l'on recourt au créateur, soit on admet que l'univers subit des cycles. Et puis il développe cette idée d'évolution cyclique. Avec l'évolution des systèmes dynamiques et les calculs d'entropie qui montrent que l'entropie ne peut que croître, les cycles ils ont quand même un peu de mal à exister. Parce que si on est une évolution cyclique, l'entropie elle croît puis elle dépend. Donc on n'est pas du tout dans le cadre classique des calculs d'entropie. Donc les théories alternatives ont un peu de mal à exister. Ensuite, elles sont très spéculatives parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui préfigure cette évolution cyclique. Donc c'est des gens qui disent ça pour essayer d'échapper à l'idée de cet univers, de ce temps linéaire, qui est le temps de la Bible, d'un début et d'une fin. Pour échapper à cette idée-là, ils essaient de leur coller des morceaux, mais sans aucune raison théorique, ni sans aucune indication expérimentale.
Je ne sais pas
vous
ce que c'est l'entropie.
Moi non plus, je vous attends bien. Et quand je fais le cours sur l'entropie, je dis aux élèves, il y en a un, lui, qui va venir me voir. Il va dire, je n'ai pas très bien compris ce que c'est que l'entropie. Ben, c'est une fonction un peu abstraite, mais qui en fait prend en compte toute l'évolution d'un système. C'est un truc assez inouï quand on y réfléchit. Prenez un gaz. Il y a 10 puissance 23 molécules. Vous vous dites, oulala, je voudrais trouver son évolution. Donc je vais écrire, comme j'ai peur de rien, 10 puissance 23 équations. Je ne veux pas avoir assez d'atomes dans l'univers pour les écrire. Et comme je suis taupin et que j'ai peur de rien, je vais les résoudre. Ça, on ne peut pas. Mais en fait, et ça serait ça qu'il faudrait faire pour trouver l'évolution du système. Et en fait, si j'ai imposé une fonction a priori un peu abstraite, qui est juste une grandeur, eh bien, à elle seule, elle arrive à refléter l'évolution macroscopique du système. Et quand je dis que si le système est isolé, elle va croître, eh bien, j'arrive à trouver, à prédire l'évolution du système. C'est un grand succès de l'abstraction physique. Donc ce n'est pas directement palpable. Alors après, en physique statistique, on peut lui donner un peu plus de corps, mais je ne vais pas vous en parler. Associé aux probabilités de réaliser tel ou tel état. Mais du point de vue macroscopique, c'est une drôle de fonction, un peu abstraite. Mais si vous réfléchissez, l'énergie, c'est un peu abstrait aussi. Ça paraît un peu plus abstrait. Oui.
Si on en vient d'heure, je ne sais pas, c'est calcul. Ce ne serait pas possible.
Non.
Pas.
Les 10 puissance 23 Non. Parce que c'est une équation couplée. De toute façon, pour les rentrer, il vous faudrait les durées sans doute supérieures à la géométrie. Voilà. Et puis vous ferez ensuite des conditions initiales que vous n'avez pas. Et donc voilà. Alors après, il y a des débats. Est-ce que le second principe de la thermodynamique est complètement fondé? Est-ce que c'est une apparence uniquement pour nous, les hommes, ou est-ce que ça existe au fond de façon objective, indépendamment de nous? Il y a un peu des débats un peu philosophiques là-dessus. Bon, ce qui compte, évidemment, pour nous, toute la description que nous faisons du monde, elle est forcément un peu biaisée parce qu'on est dedans. Si vous voulez faire une description totalement objective de l'univers, il faudrait qu'on soit dehors. Mais comme on est dedans, c'est forcément un petit peu biaisé. Il peut y avoir un moment ou un autre des points de discussion. Je voudrais vous dire un mot sur la mécanique quantique. Parce que la mécanique quantique, ça intéresse tout le monde, la mécanique quantique. On vit dans un monde quantique. C'est apparu au début du XXe siècle, et puis ça s'est développé tout au long du XXe siècle, et ça a donné un grand nombre de résultats assez extraordinaires, on calcule des quantités à 8 chiffres derrière la virgule, puis ça marche. Enfin, ça marche de façon incroyable. Personne ne comprend exactement ce que c'est que cette mécanique. Au laboratoire de l'ENS, il y a un monsieur qui s'appelle Franck Laloé, qui a écrit un livre. J'ai été acheté par le CDI de Stan, je crois que je suis le seul à l'avoir regardé, qui s'appelle « Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ?» La réponse est dans le titre. Bon, on devine la réponse. C'est bizarrement ficelé, on a eu un peu de mal à comprendre. Je ne dis pas tout. Et là, il se passe des choses étonnantes. D'abord, au niveau de la description du monde. Quand vous êtes en mécanique classique, vous dites, ben voilà, j'ai un corps, il a une position, une vitesse, etc. Quand vous êtes en mécanique quantique, vous le décrivez par un objet mathématique. Ça s'appelle une fonction d'onde. Et il semble beaucoup plus, être beaucoup plus proche de la réalité quand vous donnez cette description mathématique que si vous donnez une description un peu à la main. Donc, pour le commun des mortels, si vous parlez d'une particule, petit électron, j'ai une petite bille qui se balade, ben ça c'est complètement faux. Et que si vous rencontrez un physicien, ben, pardon monsieur, qu'est-ce qu'un électron ? Oh, c'est un vecteur dans l'espace de Hilbert, donc un espace à deux dimensions infinies sur C, oh, très bien, qui se caractérise par trois nombres, ce qu'on appelle des nombres quantiques. Fort bien. C'est donc ça un électron. Oui, c'est ça. C'est donc. C'est étonnant, c'est qu'on le décrit mieux par une abstraction que par quelque chose qui paraît palpable. C'est tellement étonnant que le cardinal Ratzinger, qui a écrit un livre que j'ai acheté quand il est devenu Benoît VII, qui s'appelle « Éléments de théologie catholique », il a un bout de chapitre sur la mécanique quantique, où il s'interroge sur cette question. Il dit « Mais comment est-ce possible que par la pensée pure, on arrive à mieux calculer la réalité que par l'observation ?» Alors c'est Heisenberg qui posait cette question, que finalement c'est la rencontre de l'objectif et du subjectif, et que ce n'est possible que parce que tout ça c'est le fruit de la création, et tout est issu du créateur, et donc c'est normal que notre esprit soit à même de refléter la réalité de la création. Donc ça c'est un élément très étonnant en mécanique quantique. Ça met fin au réductionnisme. Réductionnisme, c'est l'idée qu'on explique tout en réduisant les choses à des petites molécules qui interagissent. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Au passage, il y a beaucoup de gens qui croient que l'esprit, c'est lié à l'activité neuronale. Il y a un prix Nobel américain qui s'appelle Libret, qui lui pense que c'est la conscience qui provoque l'activité neuronale. Le problème de la cause et de l'effet. Je pourrais y travailler là-dessus. Le 21e siècle sera sans doute le siècle de la biologie qui va se mathématiser. Si elle arrive à se mathématiser, elle va progresser. On compte sur vous. Et donc, de voir uniquement l'esprit comme étant des interactions entre des petites billes, c'est totalement dépassé. Bernard d'Espagnac, qui est un grand chercheur en physique théorique, qui a écrit beaucoup de livres de philo, il a écrit un livre qui s'appelle « Science et philosophie », qui est assez ardu, dit finalement, en substance, imaginez que la pensée est le fruit d'interactions entre des atomes isolés, des molécules isolées, et est un non-sens, puisque ces atomes isolés, on ne les conçoit, sont le fruit eux-mêmes de la pensée. C'est pas forcément une réalité. Et donc, on ne peut pas expliquer la pensée par quelque chose qui est fruit de la pensée. Grande pensée de Bernard d'Espagnac. Bien. On est en pleine évolution sur ces affaires-là. Il y a un truc inouï en mécanique quantique qui semble montrer qu'il y a des phénomènes qui sortent de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. L'intrication quantique, c'est la chose suivante. En mécanique quantique, vous pouvez prévoir que les probabilités de mesure de telle ou telle grandeur. Vous produisez des particules qui sont qui ont une caractéristique soit valo, soit valo. Et vous en produisez deux, nécessairement, qui ont des caractéristiques inverses, donc O et O. Simplement, quand vous les produisez, vous ne savez pas ce qu'elles sont. Et puis, elles s'écartent, et vous allez mesurer celle-là. Ah, elle est vers le haut. Du coup, je suis sûr que l'autre, elle est vers le bas. Si ces deux états étaient préexistants à la mesure, ça ne casse pas des briques, ce que je raconte. Vraiment, je ne le savais pas, c'est dans un sac opaque, donc il y en a une qui était vers le haut, vers le bas, mais je ne voyais pas. J'ouvre un œil, elle est vers le haut, ah ben oui, ben l'autre, elle est vers le bas. Ça, c'est les états prédéterminés. Mais la mécanique quantique, elle ne dit pas ça du tout, la mécanique quantique orthodoxe. Elle dit que les états ne sont pas prédéterminés, que tant que je n'ai pas fait la mesure, chacun peut être aussi bien vers le haut que vers le bas. Et c'est que quand je fais la mesure que je bloque le résultat. Ça veut dire que quand je fais ça, je fais la mesure, hop, vers l'eau. Instantanément, je vais vers l'eau. Comme s'il y avait une interaction à vitesse infinie de l'un vers l'autre. C'est ça l'implication quantique. Ça a été prouvé expérimentalement par Alain Aspect en 1984. J'ai visité son expérience à Orsay. Il a passé sa thèse là-dessus. Il y a tout le côté de la physique mondiale qui est venu assister à sa thèse. Il a montré, alors il y avait des inégalités à vérifier qui ont été établies par un mathématicien. Et il a fait ses mesures, il a vu que les inégalités étaient toutes vérifiées pour dire que c'est la mécanique quantique qui a raison, c'est-à-dire que les états ne sont pas prédéterminés, et que du coup, quand je fais une mesure, je produis un résultat, et ça produit instantanément l'autre. Ça, c'est très étonnant. Alors depuis, ça a été réitéré avec des dizaines de kilomètres d'écart. Et ça marche. Donc ça veut dire que les états, ils sont bien triqués. Et comme s'il n'y avait pas de distance entre eux. Ou qu'il y ait une espèce d'information qui sort du temps. Et j'ai rencontré un physicien suisse, non pas très suisse parce qu'il s'appelle Antonio Suarez, mais enfin, j'habite à Zurich. Et il a fait une expérience qu'il intitule « Before, before », ça veut dire « avant, avant ». J'ai fait allemand, voilà. Par un effet relativiste, il arrive à montrer qu'en fait, la deuxième particule va anticiper à la mesure qu'on va faire sur la première. Ça, c'est totalement fou. Ça veut dire qu'on n'a plus de causalité classique. On sort du temps. Donc il semblerait qu'il y ait des événements qui se déroulent en dehors du temps dans notre espace. Ça c'est un truc assez inouï sur la mécanique quantique. Alors c'est assez récent, ces affaires-là. C'est bien sûr très particulier, des expériences très particulières, mais c'est quand même assez fulgurant. Donc la mécanique quantique, c'est plein de mystères comme ça, qui, ça c'est un exemple où c'est de plus en plus complexe. Et c'est de plus en plus mystérieux. Les deux, tout ça se voit. Alors, pour conclure, je vais dire plusieurs choses, il faut que je les dise dans le bon sens. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu crée le monde. Frédéric Guillot, dans son livre, il a tout un paragraphe pour dire Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Et quand il crée le monde, c'est simple. Il y a juste des photons, juste un petit germe de l'univers avec des photons. Et ça va donner naissance à tout ce qu'il y a dans le monde, à toute la complexité qu'il y a derrière. C'est assez fulgurant. Et pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que j'ai des lois physiques, j'ai des lois physiques qui sont assez simples. Prenez les lois électromagnétiques, c'est quatre équations. Bon, voilà. Si vous avez le cours est terminé, je vais mettre les quatre, mais c'est fini. On peut passer sa vie à les étudier. C'est comme les maths. Il y a quelques axiomes, mais on peut passer sa vie à étudier les conséquences de ces axiomes. Donc, il y a une forme de simplicité, mais qui en fait recèle une très grande complexité potentielle. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Et du coup, on parlait du principe anthropique. Il y a des gens qui le décrivent un peu comme si on imaginait Dieu comme un super ingénieur en chef avec ses clés et ses boulons courant partout, je règle le sage, je règle celle-là, oulala, ça va pas. La création, elle est simple. Et moi, je vois ça comme un souffle créateur, qui vient du Dieu trinitaire, qui est en interaction, qui est comme un système dynamique, et qui rayonne. Qui rayonne, se souffle de l'amour et ça va faire la création. Et puis après, il advient tout ce qu'il advient. Et donc de façon assez étonnante, c'est-à-dire qu'il y a cette rationalité créatrice au départ, simple, mais cette simplicité, elle contient en fait toute la complexité qui va sortir. Il y a un truc assez extraordinaire. Il n'y a rien qui ressemble plus à un atome d'hydrogène qu'à un autre atome d'hydrogène. Et ça, c'est pas banal. Parce que si on était en mécanique classique, l'énergie d'un atome, donc une liaison entre un proton et un électron, ça dépend des conditions initiales. C'est ce qui se passe pour les systèmes planétaires. Du coup, je devrais avoir autant d'atomes d'hydrogène différents qu'il y a d'atomes d'hydrogène. Et si c'était comme ça, je ne pourrais pas faire de chimie. Je suis obligé de dire, pour faire ma réaction de CH4+O2 comme ça, oh là là, il faut des hydrogènes bien particuliers qu'on a produits sous 2016, à Versailles, etc. Parce que les autres, ça n'a pas marché. Ils sont tous pareils. Et pourquoi est-ce qu'ils sont... Et ça, c'est une simplicité qui va permettre la complexité. La complexité du monde de la chimie organique et donc de la biologie. Et ils sont tous pareils. Pourquoi ? Parce que leurs niveaux d'énergie sont liés aux constantes fondamentales, et en particulier à la constante de Planck. Donc ils ont tous le même niveau d'énergie. Il y a des gens qui appellent la constante de Planck la constante théologique. Et donc, voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu, d'avoir cette simplicité qui ensuite va permettre l'éclosion de toutes les réactions possibles. Allez méditer ça, c'est assez étonnant. Donc voilà, on fait ça comme ça. Espèce de souffle, pas voir Dieu comme un super... ordinateur ou technicien, etc. Et ensuite, tout se déroule, pas de façon mécaniste, mais au gré du hasard, du temps qui s'écoule, etc. Mais finalement, inexorablement, advient le vivant et nous. Il y a un type qui s'appelle Dan Brown, vous savez, qui a écrit un bouquin, donc j'ai oublié le nom, c'est un élève qui m'a passé l'année dernière. Je commençais à lire, mais j'ai arrêté au bout de quelques pages. Il m'avait dit, il ne lisait qu'un chapitre. C'est anti-catholique à toutes les pages. Normalement, ça va, c'est en plus les 800 pages. Donc, j'ai juste lu un chapitre. Il met en scène un informaticien qui va montrer que Dieu est superflu. Et donc, les religions vont disparaître. C'est le grand thème de son bouquin. Et comment est-ce qu'il fait? Il met sur un ordinateur toutes les molécules qu'on trouve sur la Terre, toutes les interactions possibles. Il fait mouliner tout ça, et il montre, et donc en un mot, il fait l'histoire de l'univers accéléré, et il montre que dans l'état actuel, eh ben, on trouve des molécules vivantes dans une soupe, dans la soupe primitive. Et donc tout ça pour dire que la vie, elle apparaît toute seule. Alors j'ai un peu réfléchi à son truc, et je me suis dit, mais en fait, ce qui est bon, c'est le contraire, c'est que Dieu existe nécessairement, parce que si... Si les réactions se faisaient au hasard, ça veut dire que la probabilité d'obtenir le vivant serait très faible. Et donc s'il ne fait qu'une expérience, qu'est-ce qu'il va obtenir? Ben, pas de vivant. Et s'il montre qu'en faisant tourner son ordinateur, inexorablement, il obtient du vivant, c'est qu'il y avait quelque chose dans la physique, dans les molécules, dans la chimie, etc., qui fait que le vivant devait apparaître. Et que ça, c'était issu du souffle de la création. J'ai un petit texte très court du cardinal Ratzinger qui est venu en l'an 2000 à la Sorbonne. En l'an 2000, je crois que le colloque de Sorbonne s'est intitulé 2000 ans après quoi, point d'interrogation. J'ai dû répondre à cette question. Et j'ai des collègues au studio qui ont été invités à. J'ai connu les profs de la Sorbonne ricaner un peu quand ils ont commencé à parler, puis après ils étaient un peu scotchés quand même parce qu'ils disaient. Donc il y a une conférence qui s'appelle Vérité du christianisme, et il se pose la question à la fin de savoir si on peut penser que le monde est issu du hasard ou d'un acte créateur, d'une raison créatrice. Il s'agit de savoir si le réel a surgi sur la base du hasard et de la nécessité, et donc de ce qui est sans raison. En d'autres termes, si la raison est un produit latéral, accidentel de l'irrationnel, et si elle est aussi finalement insignifiante dans l'océan de l'irrationnel. Alors ça, c'est la première alternative. Et donc effectivement, s'il n'y a pas de raison créatrice au monde, c'est que le monde est lui-même irrationnel. Et donc c'est assez étonnant que nous ayons une raison. Ou, autre branche alternative, ce qui constitue la conviction fondamentale de la foi chrétienne et de sa philosophie reste vraie, in principio erat verbum, au commencement de toute chose, il y a la force créatrice de la raison. La foi chrétienne est aujourd'hui, comme hier, l'option pour la priorité de la raison et du rationnel. C'est un peu inattendu comme phrase. Cette question ultime ne peut plus être résolue au moyen d'arguments tirés des sciences naturelles et de la pensée philosophique, elle même se heurte ici à ses limites. Il n'y a pas eu Frédéric Guillaume. En ce sens, on ne peut fournir de preuve dernière de l'option chrétienne fondamentale, Mais la raison peut-elle finalement, sans se renier elle-même, renoncer à la priorité du rationnel sur l'irrationnel? Ça, c'est très juste. On est tous dotés de raison et on a tous envie d'appliquer notre raison sur ce qu'on voit autour de nous. À l'existence originelle du logos, le modèle offert par Popper, qui revient sous diverses formes, montre que la raison ne peut s'empêcher de penser irrationnel selon sa mesure, et donc rationnellement, rétablissant par là implicitement le primat contesté de la raison. Par son option en faveur du primat de la raison, le christianisme demeure aujourd'hui encore rationalité. Et je pense qu'une rationalité qui se débarrasse de cette option, l'option chrétienne, devrait signifier, contrairement aux apparences, non point une évolution, mais une involution de la rationalité. Je trouve ça très bien. Donc l'idée que penser le monde, un monde irrationnel, c'est finalement très, très, très contradictoire. Et que c'est finalement restaurer le primat de la raison. Je vais terminer par une anecdote. J'avais été invité par mon directeur des affaires d'Espagne aux AFC, Association de l'Église catholique de Rambouillet. Il avait fait un peu de publicité, donc il y a le comité d'action laïque qui avait déboulé pour me porter la contradiction. Comme ça arrive, c'était assez loin. Il y a une brave dame qui se lève, qui me dit non, vous êtes scientifique, oui, vous êtes croyant, oui. Alors vous croyez que c'est dans la Bible, oui. Alors vous croyez que Dieu a pris de la glaise et en a fait un bonhomme, c'est idiot. Et alors, au lieu de me justifier, je lui dis, ah, moi, qu'est-ce que vous croyez? Parce que Dieu vous dit ce que vous croyez. C'est qu'il y avait de la glaise toute seule et que c'est devenu un bonhomme tout seul sans le souffle de Dieu. Et ça, c'est totalement absurde. Je vais s'en partir. Bien, ben voilà ce petit panorama.
Magnifique. Comme il y a assez tard, peut-être on va dire les conflits. S'il y a des questions, peut-être qu'on accusera.
Alors, ce que je peux faire, c'est qu'il y a des bouquins qui sont vraiment bons. Oui. Je peux donner à Six une petite biographie sur ce que ça peut être.
Merci beaucoup. Allez, merci.
Mais la glace.